Propel by MIPIM, les 14 et 15 septembre 2020, en direct du 104 à Paris. Un événement MIPIM Paris Real Estate Week sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous sur ce salon Propel by MIPIM, hein, la nouvelle dénomination de ce salon pour cette année 2020 un peu particulière. On est ravis d'accueillir Jeanne Massa. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Vous êtes la patronne d'Habitéo, la cofondatrice et également la vice-présidente de la French PropTech.
Tout à fait.
On va faire le point avec vous sur, je le disais, hein, cette année qui a été un petit peu bouleversée au niveau des dates pour les salons, ouais. Mais on va voir aussi les effets sur l'ensemble de la PropTech. On est ravis de vous accueillir puisqu'on est un petit peu collègues. J'ai vu dans votre bio que vous avez fait des débuts de journaliste dans la presse touristique.
Tout à fait.
Voilà, bon, on ne dévoilera pas tous les talents de Jeanne Massa.
C'était il y a un peu longtemps.
Ensuite, des grosses boîtes et puis voilà la création d'Habitéo il y a quelques années.
Il y a quelques années, c'était en 2014.
2014. Alors, 2014, c'est vrai qu'on n'avait pas tous ces aléas. Il y en avait d'autres, évidemment.
Oui.
On est ici pour
parler... On ne parlait pas encore PropTech non plus.
Non plus, ouais, c'est vrai.
Ça n'existait pas à ce moment-là. On avait la fintech qui apparaissait, mais la proptech n'était pas encore un terme, même existant.
Les startups de la finance, là maintenant, les startups sur effectivement tout ce qui est la propriété, le real estate, comme on dit, beaucoup d'anglicisme. Hein. D'ailleurs, toutes les conférences sont en anglais, et c'est très bien pour nos amis qui n'ont pas pu venir. Alors justement, on fait un petit point, Jeanne Massa, sur cette année, je le disais, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Quel a été l'impact de cette crise sanitaire sur les métiers et particulièrement sur la PropTech?
Mais sur la PropTech, disons que cet impact de cette crise sanitaire et surtout de ce moment un peu important qu'a été le confinement, c'est d'avoir une obligation de digitalisation. Quels étaient les moyens de contact, de communication, quelles étaient les nouvelles manières de travailler? Ça passe par le digital. Donc c'est pour des boîtes telles que les nôtres qui cherchent à impulser des changements d'organisation, des changements de travail. Ça a été une formidable accélération de la prise de conscience de ce dont on a besoin. Et du coup, je pense qu'on a gagné un an d'évangélisation du marché sur les nouvelles technologies.
Oui, parce que tout ce qu'on avait en bêta-test finalement dans les cartons, là, ça s'est accéléré. Il y a eu l'essor des nouvelles technologies. On s'est dit, peut-être la petite société, la start-up qui nous faisait des appels du pied, c'est le moment de passer à l'action.
Alors, c'est peut-être pas tout le monde. Tout le monde n'est pas passé à l'action en tant que tel immédiatement. Mais il y a une prise de conscience qui fait que ce qu'on testait, on va dire sur un ou deux projets immobiliers, eh bien c'est quelque chose où on se dit il faut le généraliser. Et donc ça nous permet de faire ce point de jonction, parce que la difficulté pour nos boîtes, c'est de passer des tests à l'industrialisation, de passer des tests au déploiement. Et donc là, l'ensemble des grands acteurs de traditionnels passent à cette phase de déploiement et disent on en a besoin.
Si on veut être un petit peu plus concret, est-ce qu'on a un exemple, par exemple, dans votre société ou dans
un exemple, clairement, sur Habitéo. Habitéo, on accompagne la commercialisation du neuf au travers de projections, donc au travers de visualisations 3D qui permettent de visiter des choses qui ne sont pas encore construites, mais qui permettent aussi de comprendre tout ce qu'est l'environnement d'un projet immobilier quand il n'est pas encore là et ce que ça peut engranger sur un quartier. Donc cette visualisation permet d'accompagner de la commercialisation à distance. Et pendant le confinement, Nexity a fait un très beau lancement 100% digital sur lequel ils ont beaucoup communiqué avec les produits, avec le parcours digital d'Habitéo.
On se remet dans le bain avec plus ou moins de bonheur, parce que ce n'est pas une période très facile pour tout le monde, sauf quand on avait un jardin ou une piscine.
Exactement.
Pas très loin. Mais bon, ceux qui étaient dans les appartements, ce n'est pas évident. On pense à tous ceux, évidemment, qui avaient quand même des projets.
Ouais.
Vous permettez toujours d'avoir cette expérience 100% digitale, de projeter les futurs clients ou ceux qui sont intéressés par un programme dans l'environnement. Mais ça va très loin, c'est-à-dire qu'on a non seulement la vidéo du quartier, on a les points d'intérêt, on peut se balader dans l'appartement, et ça va même jusqu'à la réalité virtuelle.
Mais en fait, on va intégrer le virtuel dans le réel. On permet de mixer ce que va être le futur bâtiment au sein d'un environnement qui existe déjà. Donc vous allez pouvoir avoir la vraie vue depuis l'appartement, comme vous allez pouvoir avoir la vision de ce qu'est le quartier demain, avec un nouveau bâtiment sur ce quartier, avec un nouveau espace vert, avec voilà, et pouvoir se balader quelque part comme si on y était. Hein,
Est-ce qu'il y a des gens qui ont véritablement pris leur décision comme ça sur en virtuel, ils disaient bah, je peux pas y aller, de toute façon l'appartement n'est pas sorti de terre.
Typiquement, je reviens sur l'opération de Nexité à Saint-Germain, ils ont fait 25 ventes sur leur premier week-end. Alors ce n'est pas que le digital, ils ont mixé, et c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient au téléphone, qui ont proposé, mais qui ont proposé en accompagnant avec des outils, c'est-à-dire je suis au téléphone avec un futur acheteur et je peux lui montrer en live exactement ce qu'il va acheter. Et déjà sur le neuf, la complexité elle est là, c'est qu'aujourd'hui vous achetez sur plan pour du neuf, donc la première des choses c'est comprendre ce qu'on va acheter. Et là, ça permet effectivement d'accompagner toute cette partie.
Très belle illustration de ce qu'on appelle le figital, hein, le mélange du physique, une personne réelle, et le digital. Ouais. Voilà tous ces outils qui nous permettent de travailler. Alors, on a vu, juste après le confinement, on y revient. C'est vrai qu'il y a eu un essor. Finalement, le printemps a été décalé, le fameux printemps de l'immobilier, avril-mai à peu près, et on a vu un élan. Pourtant, vous dites, sur le neuf, on a pris beaucoup de retard, mais pas forcément à cause de la crise sanitaire.
On est totalement d'accord. C'est surtout le report des élections municipales, et qui ont un impact important, déjà une fois tous les 6 ans, puisqu'il y a un gel des permis de construire pendant cette période-là, un petit peu en amont d'ailleurs, par les futures équipes, les équipes en place des élus locaux. Et il n'y a pas forcément eu de récupération à date de l'ensemble de ces permis. Et on est bien là sur une problématique, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer quelque part la délivrance des permis de construire. Et comme l'instruction, pas la délivrance, l'instruction, ne serait-ce que l'instruction des permis de construire. Et aujourd'hui, on est encore face à cette problématique.
Qu'est-ce qui bloque ? On entend toujours parler, c'est vrai, et pas qu'en période municipale, on a l'impression qu'il y a toujours des recours, il y a des choses qui bloquent. Pourtant, on sait que le pays a désespérément besoin de ces nouveaux logements. On voit les prix monter de manière stratosphérique, pratiquement, ça dépend des zones. Mais on a l'impression que ça pourrait être justement réduit ou amélioré justement par toutes ces sociétés et notamment par le digital. Quel est le point de blocage à votre avis ?
Alors, les recours sont basés sur deux choses. D'un côté, les peurs quel sera le projet et pourquoi je vais avoir un immeuble en face de chez moi et qu'est-ce que ça va donner. Donc là, la projection peut aider, mais c'est un pourcentage des recours. Et puis il y a tous les recours qui sont plutôt contentieux, qui sont parfois de l'opposition, qui sont etc. Et donc là, on est sur d'autres formes. La première des choses, c'est déjà l'instruction. L'instruction, est-ce qu'on pourrait aller plus vite ? Est-ce qu'on pourrait on va dire avoir une concertation commune entre les élus, les citoyens, qui sont des usagers, et donc comment est-ce qu'on leur donne visibilité des futurs projets, et comment est-ce que les promoteurs aujourd'hui ne pourraient pas arriver à montrer les projets en amont à des élus locaux avant d'arriver avec des choses toutes faites et qui correspondent peut-être pas au plan d'action de la collectivité. Ça, c'est un point. Et puis le deuxième point, c'est effectivement la dématérialisation des permis de construire. On a une date butoir qui arrive, qui est le 1er janvier 2022, pour l'ensemble des municipalités françaises. Et dont on a posé l'obligation de la dématérialisation. Pour l'instant, je ne pense pas que les municipalités, à date, soient prêtes à ça, et les outils pour le faire. Et puis, soyons très clairs, nos élus aujourd'hui ne sont pas versés, n'ont pas dans leur ADN, pour la plupart, l'innovation. Donc comment est-ce qu'on peut leur apporter quelque chose ? Comment est-ce qu'on peut les aider sur cette partie-là ? C'est peut-être en leur mettant à disposition une boîte d'outils qui leur permette de comprendre ce que les innovations peuvent apporter sur leur métier, en tous les cas, sur leur municipalité, sur leur plan d'action. Comment est-ce qu'ils peuvent intégrer de l'innovation ? Quel est le coût de l'innovation versus les avantages qu'ils vont en avoir derrière ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle innovation, on a l'impression que c'est budget, ça va coûter cher. Il va falloir investir.
Alors que pas forcément. Aujourd'hui, ça peut être...
Il y a une part d'investissement. Soyons clairs, nos produits ne sont pas gratuits. Mais néanmoins, quand on met les avantages que l'on peut en récupérer, et à très long terme, parce que Moi, je parlais de projection, mais on a au sein de la French PropTech des boîtes qui sont sur de l'énergie, sur de la mobilité, sur un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, vont apporter aussi des avantages à long terme sur les budgets des municipalités.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? C'est l'information, du coup, de cette boîte à outils ? C'est peut-être un kit qu'il faudrait fournir à l'ensemble des 36 000 communes en France pour qu'elles connaissent mieux, de la formation ?
Oui, c'est un peu tout ça ? C'est un peu tout ça. Et finalement, c'est l'ADN de la French PropTech. C'est de se dire, aujourd'hui, on s'est réunis entre entrepreneurs de la PropTech au sein d'une association qui porte... un premier point qui est de dire comment est-ce que je peux montrer l'innovation concrète. Le pitch de start-up, on en a un peu tous ras-le-bol et c'est pas ce qui nous emmène, mais comment est-ce que je peux montrer un use case, comment est-ce que je peux montrer de quelle manière une innovation peut changer le métier de mon client ou le plan d'action de mon élu local, et de lui apporter cette partie extrêmement concrète au travers d'un démonstrateur. C'est ce qu'on a fait au sein des événements de la French PropTech. C'est ce qu'on a construit au sein de parcours dans lesquels on embarque, typiquement, un parcours que l'on a créé sur notre dernier événement, qui est pour les collectivités et les territoires.
Un dernier mot justement de ce salon, hein, Propel by MIPIM, ouais. cette semaine finalement, MIPIM qui s'est délocalisé et c'est tant mieux. Alors il n'y a peut-être pas l'affluence des grands jours quand c'est dans son lieu de prédilection à Cannes, mais l'important c'était quand même de marquer le coup et d'essayer de réunir cette communauté. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative ?
L'initiative, encore une fois, toutes ces initiatives servent à l'émergence ou en tous les cas à l'installation de cet écosystème. Donc tout ça nous aide, nous, à montrer ce que l'on fait et à porter quelque part le message de ce que ça peut apporter à l'ensemble des acteurs traditionnels. Effectivement, le Propel l'année dernière avait une grande dimension internationale, le MIPIM a une grande dimension internationale, il nous manque peut-être ces visiteurs internationaux. Néanmoins, je pense que c'était extrêmement important qu'il y ait un événement sur cette rentrée. Il est important de conserver ces événements autour de l'innovation et le Propel by MIPIM l'avait bien compris. En plus, ils ont remis et remettaient cette année l'humain au centre de l'innovation, parce que c'est exactement ça. Encore une fois, on peut avoir toutes les technologies du monde, elles sont portées par des hommes. Il faut qu'elles soient portées, que ce soit d'ailleurs par des élus pour pouvoir ensuite appliquer un certain nombre de choses, que ce soit par des vendeurs quand il faut qu'ils puissent utiliser des outils. Donc finalement, le digital n'est rien sans l'humain derrière.
Ouais, c'est ce que tout le monde un peu nous dit, hein. Effectivement, il faut réinventer cette manière de travailler, mais il y a de l'humain derrière et en permanence, et c'est pour ça qu'il y a de l'innovation. Et beaucoup d'innovation dans cette branche. Merci Jeanne Massa. Beaucoup d'autres sujets. On vous reviendrez au studio et nous voir sur le plateau de Radio Mio. Je rappelle que vous êtes la patronne et la cofondatrice d'Habitéo et la vice-présidente de French PropTech. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Propel by MIPIM, les 14 et 15 septembre 2020, en direct du 104 à Paris. Un événement MIPIM Paris Real Estate Week sur Radio Immo.